Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous voici réunis une nouvelle fois à Écône pour participer à cette cérémonie si émouvante de l'ordination de prêtre. En effet, s'il est une cérémonie qui nous fait vivre les instants les plus sublimes de l'Église, c'est bien la cérémonie d'ordination sacerdotale. Elle nous rappelle en particulier la scène où notre Seigneur Jésus-Christ a fait de ses apôtres des prêtres. Elle rappelle aussi l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres au jour de la Pentecôte. Et ainsi, l'Église continue. Le Saint-Esprit continue de se répandre dans la main du successeur des apôtres. Et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir conférer l'ordination sacerdotale à 13 nouveaux prêtres. Il n'y aurait pas dû y avoir d'ordination sacerdotale cette année. En effet, les études passaient de 5 à 6 années. Et les conséquences de ce changement devaient intervenir cette année. Et c'est pourquoi, normalement, il n'y aurait pas dû y avoir d'ordination sacerdotale, du moins pour la fraternité. Mais les circonstances particulières, des occasions spéciales ont fait que nous ordonnons donc aujourd'hui 7 diacres de la fraternité et 6 autres qui font partie de diverses sociétés, frères, sœurs, qui luttent dans le même combat, avec les mêmes convictions, avec le même amour de l'Église. Avant-hier, j'ai conféré l'ordination sacerdotale à 2 membres de la fraternité du district d'Allemagne, ce qui porte donc les ordinations cette année à 15. Nous espérons, avec la grâce de Dieu, qu'à mesure que les années avanceront, le nombre ira en croissant, puisque nos séminaires, particulièrement les séminaires d'Allemagne et des États-Unis, vont nous fournir maintenant les fruits du travail qui a été fait au cours des années précédentes. La première ordination de Richfield en Amérique aura lieu l'année prochaine avec 3 nouveaux prêtres. Nous commencerons à recueillir les fruits du travail qui a été accompli là-bas dans ce séminaire américain. Et il en est déjà de même du séminaire de Zachkofen en Allemagne, mais le nombre, avec la grâce de Dieu, ira croissant. Nous devons prier pour que le bon Dieu bénisse ces séminaires, fasse en sorte que ceux qui se préparent à devenir prêtres reçoivent vraiment en abondance les grâces dont ils ont besoin. Mes chers amis, vous qui dans quelques instants allez être ordonné prêtre, vous comprenez, je suis sûr, aujourd'hui, plus que jamais, que cette ordination va vous situer au cœur même de l'œuvre de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Par son sacrifice, notre Seigneur s'engageait en quelque sorte, par son sacrifice de la croix, à faire des prêtres, à faire partager son sacerdoce éternel à ceux qui l'auraient choisi pour continuer son sacrifice, source des grâces de la rédemption. Car c'est la grande œuvre de Dieu. C'est pour la rédemption que Dieu a tout créé, qu'il a tout fait. C'est sa grande œuvre de charité, et Dieu est charité, et tout ce qui sort de Dieu est charité. Il a voulu nous diviniser, nous communiquer cette charité immense dont il brûle durant l'éternité, depuis l'éternité. Il a voulu nous la communiquer, il nous l'a communiqué par une manifestation extraordinaire, par sa croix, par la mort d'un Dieu, par son sang répandu. Et il a voulu que des hommes choisis par lui continuent ce sacrifice afin de donner sa vie divine aux âmes, de les guérir de leurs fautes, de leurs péchés et de leur communiquer sa propre vie afin qu'un jour cette vie nous glorifie et que nous soyons glorifiés avec Dieu dans l'éternité. Voilà l'œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'il a tout créé, tout ce que nous voyons, tout ce monde qu'il a fait, il l'a fait pour la croix. Il l'a fait pour la rédemption des âmes. Il l'a fait pour le saint sacrifice de la messe. Il l'a fait pour les prêtres. Il l'a fait pour que les âmes puissent s'unir à lui, particulièrement comme victimes dans la Sainte Eucharistie. Il se communique à nous comme victimes, afin que nous offrions aussi nos vies avec la sienne et que nous participions ainsi non seulement à notre rédemption, mais à la rédemption des âmes. Ce plan de Dieu, cette pensée de Dieu qui a réalisé le monde est une chose extraordinaire. Nous sommes stupéfaits devant ce grand mystère que le bon Dieu a réalisé ici-bas. Et précisément, parce que le sacrifice de notre Seigneur est au cœur de l'Église, au cœur de notre salut, au cœur de nos âmes, tout ce qui touche le saint sacrifice de la messe nous touche profondément, nous touche chacun d'entre nous personnellement, parce que nous devons participer à ce sacrifice pour le salut de nos âmes, parce que nous devons recevoir le sang de Jésus par le baptême et par tous les sacrements, et particulièrement par le sacrement de l'Eucharistie, pour sauver nos âmes. Et c'est pourquoi nous sommes si attachés au saint sacrifice de la messe, et que dès lors qu'on veut y toucher pour le rendre, soi-disant, plus acceptable à ceux qui n'ont pas notre foi, à ceux qui n'ont pas la foi catholique. Tous ces changements qui ont été introduits ces dernières années dans ce qu'il y a de plus précieux dans la Sainte Église, dans les réformes liturgiques, ces changements qui ont été opérés l'ont été pour, soi-disant, nous rapprocher de nos frères séparés, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas notre foi. Alors notre cœur a tremblé, nos intelligences aussi, et notre foi s'est émue. Et nous nous sommes demandé, mais est-il possible qu'on puisse réduire cette réalité la plus grande, la plus mystique, la plus belle, la plus divine de notre Sainte Église, la Sainte Église catholique et romaine, la diminuer de telle sorte qu'elle soit mise à la disposition des hérétiques. Nous n'avons pas compris. Et dans cette émotion, nous nous sommes demandé vraiment comment des clercs qui se sont introduits dans l'Église, ayant des idées qui ne sont pas celles de l'Église, n'étant pas mû vraiment par l'Esprit Saint, n'étant pas rempli de l'Esprit de vérité, mais de l'Esprit de l'erreur, ont pu monter jusqu'au plus haut sommet de l'Église et nous donner ces réformes qui détruisent l'Église. Quel mystère! Comment est-ce possible? Comment le bon Dieu a-t-il pu permettre cela? Comment notre Seigneur, qui avait fait toutes ses promesses à Pierre et à ses successeurs et à l'Église et à tous les successeurs des apôtres, comment cette réalité a pu se trouver devant nos yeux à notre époque? Jamais peut-être des fidèles au cours de leur existence n'ont eu ce problème à se poser. Bienheureux, les fidèles qui ont vécu avant nous et qui n'ont pas eu ces problèmes à se poser et à résoudre. Alors en quelques mots, je voudrais essayer d'éclairer un peu vos esprits sur ce qui me semble devoir être notre ligne de conduite dans ces événements si douloureux qui interviennent dans la Sainte Église. Il me semble qu'on peut comparer cette passion que souffre l'Église aujourd'hui à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez combien ont été stupéfaits les apôtres eux-mêmes devant notre Seigneur ligoté, ayant reçu ce baiser de la trahison de Judas. Il est emmené. On l'affuble d'une robe d'écarlate, on se moque de lui, on le frappe, on le charge de la croix et les apôtres s'enfuient. Les apôtres sont scandalisés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que celui que Pierre a proclamé tuer le Christ, le Fils de Dieu, en soit réduit à cette indigence, à cette humilité, à cette avanie. Ce n'est pas possible, il le fuit. Seule la Vierge Marie, avec Saint Jean et quelques femmes, entourent notre Seigneur. Eux ont gardé la foi. Ils ne veulent pas abandonner notre Seigneur. Ils savent que notre Seigneur est Dieu. Mais ils savent aussi qu'il est homme. Et c'est précisément cette union de la divinité avec l'humanité de notre Seigneur qui a posé des problèmes extraordinaires. Car notre Seigneur n'a pas voulu seulement être un homme, il a voulu être un homme comme nous, avec toutes les conséquences du péché, mais sans péché, hormis le péché. Mais il a voulu en subir toutes les conséquences, la douleur, la fatigue, la souffrance, la faim, la soif, la mort, jusqu'à la mort. Oui, notre Seigneur a réalisé cette chose extraordinaire, qui a scandalisé les apôtres, avant de scandaliser bien d'autres qui se sont séparés de notre Seigneur ou qui n'ont plus cru à la divinité de notre Seigneur. Tout au cours de l'histoire de l'Église, on voit de ces âmes qui, étonnées devant la faiblesse de notre Seigneur, n'ont pas cru qu'il était Dieu. C'est le cas d'Arius. Arius a dit « Non, ce n'est pas possible. Cet homme ne peut pas être Dieu. » Sans doute c'est un surhomme, c'est le premier-né, mais ce n'est pas Dieu, puisqu'il a dit qu'il était moindre que son père était plus grand que lui, il est donc plus petit que son père, il n'est donc pas Dieu. Et puis, il a prononcé ces paroles si surprenantes. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Comment celui qui avait la vision béatifique, qui voyait Dieu dans son âme humaine, et donc qui était beaucoup plus glorieux qu'infirme, beaucoup plus éternel que temporel, son âme était déjà dans l'éternité, bienheureuse. Et le voici qui souffre et qui dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Et qui prononce ces paroles stupéfiantes que nous, jamais nous-mêmes, nous n'aurions imaginé mettre sur les lèvres de notre Seigneur. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'avez-vous abandonné? Mais comment? Comment notre Seigneur, Dieu lui-même, peut-il dire cela? Pourquoi m'avez-vous abandonné? Alors le scandale, hélas, se répand parmi des âmes faibles. Et Arius entraîne presque l'Église tout entière à dire « Non, cette personne, ce n'est pas Dieu. » Alors d'autres, au contraire, réagiront et diront « Mais Peut-être que tout ce que notre Seigneur a subi, ce sang qui coule, ces blessures, cette croix, tout cela, c'est de l'imagination. En fait, ce sont des phénomènes extérieurs qui se sont passés, mais qui n'étaient pas réels. Un peu comme l'archange Raphaël, lorsqu'il a accompagné Tobie, a dit ensuite à Tobie, « Vous croyez que je mangeais lorsque je prenais de la nourriture, mais non, je me nourris d'une nourriture spirituelle. » Ainsi, l'archange Raphaël n'avait pas un corps comme celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas né dans le sein d'une mère terrestre comme notre Seigneur né de la Vierge Marie. Alors peut-être notre Seigneur était-il un phénomène comme celui-là, et que semblant manger, il ne mangeait pas, semblant souffrir, il ne souffrait pas. Et alors ce furent ceux qui nièrent la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, les monophysites, les monothélistes, qui nièrent la nature et la volonté humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout était Dieu en lui, et tout ce qui s'est passé n'était que des apparences. Voyez les conséquences de ceux qui se scandalisent de la réalité, de la vérité. Alors je ferai une comparaison avec l'Église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes scandalisés. Oui, vraiment scandalisés de la situation de l'Église. Nous pensions que l'Église était vraiment divine et qu'elle ne pouvait jamais se tromper, qu'elle ne pouvait jamais nous tromper. Oui, c'est vrai, l'Église est divine. L'Église ne peut pas perdre la vérité. L'Église gardera toujours la vérité éternelle. Mais elle est humaine aussi. L'Église est humaine, et bien plus humaine que notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas pécher, il était le saint, le juste par excellence. Mais l'Église, si elle est divine, est vraiment divine. Elle nous porte toutes les choses de Dieu, et particulièrement la Sainte Eucharistie, des choses éternelles qui ne pourront jamais changer, qui feront la gloire de nos âmes dans le ciel. Oui, l'Église est divine, mais elle est humaine. Elle est supportée par des hommes qui peuvent être pécheurs, qui sont des pécheurs. Et qui, si ils participent dans une certaine manière à la divinité de l'Église, dans une certaine mesure, comme le pape, par exemple, par son infaillibilité, par le charisme de l'infaillibilité, participe à la divinité de l'Église. Mais cependant, il reste homme, il reste pécheur. Et en dehors des cas où il use de son charisme de l'infaillibilité, il peut errer, il peut pécher. Alors pourquoi nous scandaliser et dire comme certains, n'est-ce pas, à l'image d'Arius, dire alors, il n'est pas pape. Alors ce n'est pas un pape. Comme Arius disait, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas vrai. Notre Seigneur ne peut pas être Dieu. Et alors nous, nous serions tentés aussi de dire, ce n'est pas possible, il ne peut pas être pape en faisant ce qu'il fait. Et comme d'autres, au contraire, qui diviniseraient l'Église à tel point que tout serait parfait dans l'Église, et que tout étant parfait dans l'Église, il n'est pas question pour nous de faire quoi que ce soit qui puisse s'opposer à quelque chose qui nous vienne de Rome, parce que tout est divin à Rome et que nous devons tout accepter ce qui vient de Rome. Font comme ceux qui disent aussi que notre Seigneur était tellement Dieu qu'il n'était pas possible qu'il souffre, que c'était des apparences de souffrance, mais qu'en réalité il ne souffrait pas, qu'en réalité son sang n'a pas coulé, c'était des apparences que nous avions dans nos yeux, dans les yeux de ceux qui étaient autour d'eux, de lui, mais que ce n'était pas une réalité. Alors il en est de même de certains aujourd'hui qui suivent, en disant non, rien ne peut être humain dans l'Église, rien ne peut être imparfait dans l'Église. Ils se trompent aussi. Ils ne suivent pas la réalité des choses. Et alors jusqu'où peut aller l'imperfection dans l'Église? Jusqu'où peut monter, je dirais, le péché dans l'Église, le péché dans l'intelligence, le péché dans l'âme, le péché dans le cœur et dans la volonté? Eh bien, ce sont les faits qui nous les montrent. De même que je vous disais tout à l'heure, nous n'aurions jamais osé mettre sur les lèvres de notre Seigneur cette parole « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Jamais nous n'aurions osé mettre une parole comme celle-là sur ses lèvres. Eh bien, jamais non plus nous n'aurions pensé que le mal, que l'erreur pouvait pénétrer ainsi à l'intérieur de l'Église. Eh bien, nous vivons cette époque. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. Les choses sont là devant nous, elles ne dépendent pas de nous. Nous sommes témoins de ce qui se passe dans l'Église, de ce qui s'est passé d'effrayant depuis le Concile, de ces ruines qui s'accumulent de jour en jour, d'année en année, dans la Sainte Église. Et plus nous avançons, et plus les erreurs se répandent, et plus les fidèles perdent la foi catholique. Une enquête faite récemment en France disait que pratiquement, on peut penser qu'il n'y a plus que 2 millions de catholiques français qui sont encore véritablement catholiques. Alors, nous allons à la fin. Tout le monde tombera dans l'hérésie, tout le monde tombera dans l'erreur, parce que des clercs, comme le disait Saint Pie X, se sont introduits à l'intérieur de l'Église et ont occupé l'Église, et ont répandu les erreurs à la faveur de l'autorité qu'ils occupent dans l'Église. Alors sommes-nous obligés de suivre l'erreur parce qu'elle nous vient par voie d'autorité? Pas plus que nous devons obéir à des parents qui sont indignes et qui nous demandent de faire des choses indignes, pas plus nous devons obéir à ceux qui nous demandent d'abandonner notre foi et d'abandonner toute la tradition. Il n'en est pas question. Oh, certes, c'est un grand mystère. Grand mystère de cette union de la divinité avec l'humanité. L'Église est divine, l'Église est humaine. Jusqu'où les défauts de l'humanité peuvent atteindre, je dirais presque, la divinité de l'Église, Dieu seul le sait, c'est un grand mystère. Mais nous, nous constatons les faits. Et nous devons nous placer devant ces faits. Et ne jamais abandonner l'Église. Et l'Église catholique et romaine, ne jamais l'abandonner. Ne jamais abandonner le successeur de Pierre. Parce que c'est par lui que nous sommes rattachés à notre Seigneur Jésus-Christ, à l'évêque de Rome, successeur de Pierre. Mais si par malheur, entraîné par je ne sais quel esprit, ou quelle formation, ou quelle pression qu'il subit, par négligence, il nous laisse et il nous entraîne dans des chemins qui nous font perdre la foi, eh bien, nous ne devons pas le suivre. Tout en reconnaissant cependant qu'il est Pierre et que s'il parle avec le charisme de l'infaillibilité, nous devons l'accepter. Mais lorsqu'il ne parle pas avec le charisme de l'infaillibilité, il peut très bien se tromper. Hélas, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire, peut-être à ce niveau et à ce degré. C'est la première fois que nous constatons une chose pareille dans l'histoire. Alors, nous sommes vraiment profondément troublés, profondément mortifiés, nous qui aimons tant la Sainte Église, qui l'avons vénérée, qui la vénérons toujours. Et c'est bien pour cela que ce séminaire existe, par amour de l'Église catholique, romaine, et que tous ces séminaires existent. Nous sommes profondément meurtris dans l'amour de notre mère, de penser que ses serviteurs, hélas, ne la servent plus, ou la desservent même. Alors nous devons prier, nous devons nous sacrifier, nous devons rester comme Marie au pied de la croix, ne pas abandonner notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il paraît, comme dit l'Écriture, il était comme un lépreux sur la croix. Eh bien, la Vierge Marie avait la foi, et elle voyait derrière ses plaies, derrière ce cœur transpercé, elle voyait Dieu, son Fils, son divin Fils. Bien nous aussi, à travers les plaies de l'Église, à travers les difficultés que nous subissons, à travers la persécution que nous subissons, même de ceux qui ont une autorité dans l'Église, bien, n'abandonnons pas l'Église. Aimons notre mère, la Sainte Église. Servons-la toujours, malgré les autorités, s'il le faut, s'il nous persécute, et bien malgré ces autorités qui nous persécutent à tort, nous continuons notre voie, nous continuons notre chemin. Nous voulons maintenir la Sainte Église catholique et romaine. Nous voulons la continuer et nous la continuerons par le sacerdoce. Par le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, par le vrai sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, par les vrais sacrements de notre Seigneur Jésus-Christ, par son vrai catéchisme. Pourquoi, mes chers amis, aujourd'hui, voyez, comme je l'ai été ordonné moi-même, et comme ici tous les confrères qui sont d'un certain âge ont été ordonnés également, ont tous été ordonnés dans la Sainte Messe traditionnelle de toujours. Ils ont reçu le pouvoir de célébrer la Sainte Messe et le Saint Sacrifice dans ce rite romain de toujours. Rappelez-vous cela, j'ai été ordonné dans ce rite et je ne veux pas le quitter et je ne veux pas l'abandonner. C'est la messe dans laquelle j'ai été ordonné et dans laquelle je dois continuer de vivre. Et c'est vraiment la messe de l'Église catholique romaine. Alors soyez fidèles, fidèles à votre saint sacrifice de la messe qui vous donnera tant et tant de consolation, tant de joie, tant de soutien dans vos difficultés, dans vos épreuves, dans les persécutions que vous risquez de subir. Vous trouverez la force de subir avec notre Seigneur Jésus-Christ toutes ces avanies, vous les trouverez dans le saint sacrifice de la messe. Et donnant vraiment notre Seigneur Jésus-Christ, dans son corps, dans son sang, dans son âme, dans sa divinité, aux fidèles, vous donnerez aussi aux fidèles le courage de continuer à suivre l'Église dans sa tradition et à se conformer à tous les exemples des saints qui les ont précédés, qui nous ont précédés. Tous ceux qui ont été canonisés, béatifiés, montrés comme exemple de sainteté dans la Sainte Église, ceux-là continueront d'être nos modèles. Que la Vierge Marie en particulier soit notre modèle. Demandons-lui aujourd'hui de faire de vous, mes chers amis, de saints prêtres. Des prêtres comme elle les désire. Et certainement, si vous l'invoquez au cours de votre vie, elle vous protégera et fera de vous des prêtres selon le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, son divin Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Pour cet instant, vous vous êtes appelé. Tout à l'heure, on vous appellera. C'est à ce moment-là que l'Église, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous appelle à participer à son sacerdoce. En ces jours où l'on a tendance à diminuer, je dirais même à mépriser la valeur du prêtre, ce qu'il a de particulièrement merveilleux, divin, au moment où le prêtre voudrait être un homme comme les autres, il me semble bien utile de rappeler la grandeur du prêtre. Celle que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu lui donner, ce n'est pas nous, ce n'est pas l'Église, ce ne sont pas les évêques qui ont donné une particulière dignité au prêtre, c'est notre Seigneur lui-même, c'est Dieu lui-même. Le prêtre a quelque chose de divin, d'intemporel, d'éternel, comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur était à la fois dans l'éternité et dans le temps. Il est difficile de s'imaginer les grandeurs, les splendeurs de notre Seigneur Jésus-Christ, même lorsqu'il était en Palestine même lorsqu'il vivait à Nazareth avec Jésus, avec Marie et Joseph, même lorsqu'il était au milieu des apôtres, au milieu de la foule, Jésus était à la fois éternel et temporel. Il était l'éternel. Il a divinisé son humanité par cette grâce d'union, cette grâce qui a fait d'une certaine manière couler l'huile de l'onction divine sur son humanité. Son humanité a été complètement divinisée. Son âme est devenue divine. Ses facultés d'intelligence, de volonté, toute son humanité est devenue divine, assumée par la divinité. Et alors, prêtre, vous participez à cette grâce d'union. Car c'est par cette grâce de l'union hypostatique, par l'union de la divinité à l'humanité de notre Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ a été fait le grand prêtre, sacerdoce in aeternum. Au moment même où, dans le sein de la Vierge Marie, la divinité s'unissait à l'humanité, Jésus devenait le prêtre par excellence, le seul prêtre, le vrai prêtre. Et nous, prêtres, par la volonté de Dieu, par la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, nous participons à cette grâce. Cette grâce qui a fait de l'humanité de notre Seigneur le prêtre éternel. Vous êtes comme une humanité de surcroît pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'incarne à nouveau dans ses prêtres. Et c'est si vrai que lorsque vous montez à l'autel et que vous prononcez les paroles de la consécration, qui continue la grâce de la rédemption et qui provoque la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ sur nos autels, vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus un tel ou un tel. Vous êtes le prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'autre Christ. Vous prononcez ces paroles sous l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se sert de vos intelligences pour que vous ayez l'intention de faire ce qu'il a fait. Il assume d'une certaine manière vos intelligences pour infuser dans elles cette pensée de refaire et de faire ce que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu. Il se sert de vos lèvres, il se sert de vos paroles. C'est in persona Christi que vous prononcez ces paroles. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes vraiment des membres privilégiés de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la dignité du prêtre. Et c'est ce qui fait toute sa dignité. C'est qu'il est utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ pour accomplir des actes que seul notre Seigneur Jésus-Christ peut faire. Car seul il peut réaliser ce miracle admirable de la transsubstantiation, ce miracle admirable de sa présence dans l'hostie, dans l'Eucharistie. Et il le fait en se servant de nous. Il aurait pu le faire sans intermédiaire, sans instrument. Il a voulu se servir d'instruments intelligents pour réaliser ce miracle, continuer sa rédemption. Ainsi, le prêtre entre dans quelque sorte dans l'éternité lui-même. Il devient tellement uni à notre Seigneur, tellement assumé par notre Seigneur, qu'il lui aussi il devient d'une certaine manière éternel. L'acte qu'il fait est un acte d'éternité. Alors, mes chers amis, lorsque vous montrez à l'autel, vous montrez comme au Tabor, et vous êtes là sur la montagne, avec notre Seigneur Jésus-Christ, et il se servira de vous pour descendre à nouveau au milieu de nous, et pour que vous le donniez aux âmes. afin qu'elle participe elle aussi à la rédemption de notre Seigneur et à sa vie divine, préparant ainsi leur vie de gloire dans le ciel. Comme tout cela est grand, comme tout cela est beau, comme tout cela nous dépasse, tellement nous avons peu idée de ce qu'est Dieu, de ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'est l'éternité par rapport au temps. Et cependant, vous êtes aussi des prêtres de ce temps. Vous ne serez pas toujours sur la montagne avec notre Seigneur, vous ne serez pas toujours à l'autel, vous serez dans le temps, au milieu de ce monde d'aujourd'hui. Alors ce monde d'aujourd'hui, mes bien chers amis, que réclame-t-il de vous ? Vous n'êtes pas au XIIe siècle ou au XIIIe siècle, vous êtes des prêtres du XXe siècle. Et qu'est-ce que ce XXe siècle ? Qu'est-ce que cette époque que nous vivons ? Doit-elle changer le prêtre ? Le prêtre dans cette époque ne sera plus un homme d'éternité ? Ne sera-t-il plus un homme uni à notre Seigneur Jésus-Christ pour prononcer les paroles de la consécration et faire descendre à nouveau Jésus parmi nous ? Sera-t-il un homme différent de celui du XIIe, du XIIIe, du XVe siècle ? Sera-t-il un homme différent du prêtre qu'étaient les apôtres ? Non, il y a dans le prêtre un homme éternel, un apôtre éternel qui fait des actes d'éternité et qu'il ne peut pas changer. S'il transforme ses actes d'éternité, il risque de ne plus donner l'éternité aux âmes, de ne plus donner notre Seigneur Jésus-Christ aux âmes. Mais cependant, vous êtes dans ce monde. Et qu'est devenu cet homme qu'on appelle l'homme moderne? Qu'est-il cet homme moderne? Et si l'on fouille dans l'histoire moderne, ce que disent les historiens de la transformation de ce monde, ils trouvent que ce qui caractérise notre époque, c'est la sécularisation. Qu'est-ce que veut dire sécularisation ? Rendons-nous compte de ce que signifie ce mot. Disons tout simplement que notre époque moderne est une époque qui veut se débarrasser de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre époque moderne est une époque qui veut se débarrasser de Dieu. C'est cela la sécularisation. C'est se mettre au niveau de ce siècle, sans Dieu, sans notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, ce travail s'accomplit lentement, sûrement, avec une conscience diabolique. Lentement, mais sûrement, notre monde devient un monde sans Dieu et sans notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'est l'homme moderne. Il se forme lentement, sans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il méprise les lois de notre Seigneur Jésus-Christ, les lois de Dieu, les lois naturelles, les lois divines, les lois ecclésiastiques. Il n'y a plus rien pour lui qui compte, sinon lui-même. Il ne fait plus que ce qu'il veut, ce qu'il entend faire, ce qu'il entend décider de lui-même et de tout ce que le bon Dieu lui a donné. C'est lui qui décidera désormais. Il est adulte. Désormais, l'homme est adulte. Il a conquis à travers les siècles sa dignité humaine. Il n'a plus besoin de Dieu, de notre Seigneur, de loi. Il est le maître du monde. Voilà, l'homme moderne. L'homme moderne. C'est-à-dire qu'il est sous l'influence du démon de l'orgueil, qui a dit « Non serviam, je ne servirai pas. Je ne veux pas servir. Je veux être mon maître. » Il est devenu comme le démon. Et alors, c'est avec cet homme-là que nous voudrions faire un pacte.
Eh oui, ça circule dans l'Église elle-même. Il faut faire un pont avec ce monde, avec le monde de l'homme moderne. Il faut faire un pacte avec l'homme moderne. Parce que ce n'est qu'en s'abaissant à son niveau, ou en se mettant à son niveau, que nous l'amènerons à Dieu. Erreur totale. Il veut être sans Dieu. Voulons-nous nous aussi être sans Dieu pour le ramener à Dieu? Quelle folie! C'est insensé. Si nous voulons lui donner Dieu, mais il faut l'amener à Dieu. Il faut lui rendre Dieu. Il faut lui faire reprendre conscience de sa pauvreté, de sa misère, de son péché, et le ramener à notre Seigneur Jésus-Christ, seul Dieu, seul Très-Haut. Voilà ce que nous devons faire, et voilà, mes chers amis, le monde dans lequel le bon Dieu vous envoie, ou théatis, et fructum afferatis, pour que vous alliez dans ce monde. Alors, ce monde incroyant, ce monde qui va vous rejeter, vous représentez notre Seigneur, nous n'avons pas besoin de notre Seigneur. Vous représentez Dieu, nous n'avons plus besoin de Dieu. Nous ne savons pas ce que c'est que Dieu. Vous voulez nous imposer des lois, nous ne voulons plus de lois, nous voulons la liberté. Nous voulons vivre maintenant en homme, adulte, avec toute notre dignité. Alors vous serez forcément rejetés du monde. Et plus le monde vous rejettera, plus vous devez rester prêtre, plus vous devez rester ce que notre Seigneur Jésus-Christ vous a fait, plus vous devez montrer en vous notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le monde a besoin de cela, et que tout de même les âmes de bonne volonté viendront vers vous. Que les âmes de bonne volonté trouveront en vous la lumière parce que vous représenterez notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous mettez au niveau du monde comme ces pauvres prêtres qui disent « Nous voulons être comme tout le monde, le prêtre est un homme comme les autres. » Alors où est la lumière du prêtre? Que représente le prêtre pour le monde? Plus rien. C'est fini, il a disparu. Et c'est vrai, il n'y a plus de prêtre dans le monde puisqu'il n'y a plus de soutane. Il n'y a plus de prêtre qui se présente comme prêtre. Le travail qu'il fait n'est plus le travail du prêtre. Il n'y a plus de prêtre. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ disparaît du monde. C'est ce que recherche l'homme moderne. Il ne veut plus notre Seigneur Jésus-Christ. Il est heureux de voir disparaître notre Seigneur Jésus-Christ dans ses prêtres. Alors, vous devez, vous, au contraire, affirmer votre sacerdoce. Affirmez la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, en toute humilité, nous ne sommes rien. Nous sommes de pauvres prêtres, de pauvres pécheurs comme les autres. Et par conséquent, évitons surtout de devenir comme les pharisiens en disant « Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis pur. Moi, je suis vrai. Moi, je suis juste. Moi, j'ai la vérité. Les autres sont des misérables. » Non. Pas d'esprit de pharisaïsme, mais maintenir la vérité, certes. Mais en même temps que nous portons la lumière au monde, nous devons savoir que cette lumière ne nous appartient pas, qu'elle appartient à Dieu, qu'elle appartient à notre Seigneur, que lui seul convertit les âmes. Alors soyez fiers et soyez heureux même de vivre à cette époque. Parce que précisément, s'il fut un temps où peut-être le monde, d'une certaine manière, était chrétien, alors les prêtres peut-être ne se sentaient plus le besoin, de manifester leur sacerdoce, de manifester la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, de manifester qu'ils étaient le sel de la terre. Parce que la vie chrétienne existait partout. Les églises étaient remplies de monde. On montrait du doigt ceux qui n'allaient pas à la Sainte Messe. Alors que maintenant, c'est le contraire. On montre du doigt ceux qui sont obéissants à la loi de Dieu. Le monde a complètement changé. Par conséquent, votre présence comme prêtre dans la société d'aujourd'hui est plus nécessaire que jamais. Que le bon Dieu vous donne cette grâce. Soyez heureux d'affirmer ainsi votre sacerdoce et de comprendre l'utilité peut-être plus grande que jamais de ce sacerdoce. Que le bon Dieu vous bénisse, que le bon Dieu vous garde dans ses pensées, dans cette force, dans ce combat contre le démon et contre tous ceux qui voudraient faire disparaître notre Seigneur de ce monde. Soyez les serviteurs de cette croisade en face de ce monde athée, de la croisade du règne de notre Seigneur Jésus-Christ et du règne de la très sainte Vierge Marie. Et c'est par la Vierge Marie, par son soutien, que vous maintiendrez votre sacerdoce. Elle qui était la mère du prêtre éternel, elle sera votre mère aussi, qu'elle vous garde dans ce combat. Voilà, mes chers amis, ce que nous demanderons au cours de cette cérémonie pour vous, et ce que je souhaite que vous puissiez réaliser dans votre vie pour avoir la joie de votre sacerdoce. Ho parlato francese perché molti qui sono di lingua francese, ma posso dire qualche parola in italiano, malgrado che il mio italiano non è tanto buono, ma ho detto a questi futuri sacerdoti che oggi sono eletti da Dio per diventare sacerdoti. In questo momento, il momento in cui il sacerdote in nome della Chiesa e di Gesù Cristo di fare questo appello, appello a loro. Questo appello è l'appello di Gesù Cristo, questo appello significa la volontà di Dio che questi giovani diventano sacerdoti. Perché, come ha detto Gesù Cristo, non vos me elegistis, sed ego elegi vos. Non sono loro che mi hanno eletto, ma io faccio l'elezione di voi. E ho detto anche che oggi il sacerdote, molti sacerdoti dicono noi siamo di uomini come gli altri uomini, non siamo differenti di altri uomini. Questo è una... E non è vero, è contro la verità. E allora diventano degli uomini come gli altri, vivono come gli altri. Ma non è vero, il sacerdote è un uomo che riceve una grazia speciale nel sacramento dell'ordine e diventa come Gesù Cristo. Come Gesù Cristo nella sua divinità e umanità e mezzo nell'eternità, mezzo nel tempo. Anche il sacerdote è come mezzo nell'eternità e mezzo nel tempo. E nell'eternità con Dio, perché lui riceve la grazia che Gesù Cristo ha ricevuto in questa grazia di unione ipostatica, in questa grazia che ha unito la natura divina e la natura umana. L'umanità di Gesù Cristo diventa come divinizzata per la grazia della natura divina e anche i sacerdoti ricevono la grazia del sacerdozio come questa grazia, la grazia di unione di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è diventato sacerdote per questa grazia, per questa unione della divinità con la sua umanità. La sua umanità è diventata il sacerdote eterno. E i sacerdoti partecipano a questa grazia straordinaria. E così diventano veramente come uomini dell'eternità, qui nella terra, quando vanno all'altare, vanno come vanno dalla montagna, sulla montagna, sul Tabor con Gesù Cristo, e sono un po' nell'eternità.
E scendono di questo monte, di questo altare, per dare Gesù Cristo a tutti gli uomini. Ciò è la dignità del sacerdote, una dignità straordinaria. E Gesù Cristo si serve di questi sacerdoti, si serve dell'intelligenza di questi sacerdoti e delle loro parole per fare questo miracolo, un miracolo straordinario della transustanziazione. Nessuno può fare questo miracolo se non è preso in persona Cristo, se non è Gesù Cristo che lo fa attraverso il sacerdote, usando del sacerdote, della sua intelligenza, con la sua intenzione e delle sue parole per adoperare questo miracolo, miracolo straordinario, che fa che Gesù Cristo è di nuovo tra noi. A noi e si dà come cibo a noi. Questa è la grazia miracolosa del sacerdote, ma anche il sacerdote di questo tempo. Come ho detto, non sono dei sacerdoti del XIII secolo o del Medioevo. Sono dei sacerdoti di questo secolo. E che cosa è questo secolo? Che cosa è l'uomo moderno? E come ho detto, l'uomo moderno è un uomo che si... Potete, nella storia di oggi, nella storia contemporanea, vedere che cosa è la... Il segno particolare di questa epoca è la secolarizzazione. Questo vuol dire che d'anno in anno gli uomini non vogliono più di Gesù Cristo e non vogliono più di Dio. Già da 2 o 3 secoli possiamo dire che questa secolarizzazione si fa poco a poco, poco a poco. E oggi l'uomo moderno non vuole più sentire nulla di Gesù Cristo e di Dio, vuole essere suo maestro, lui ha solo bisogno della sua coscienza, lui adesso è adulto e lui non ha bisogno delle leggi di Dio, della legge di Dio, delle leggi... di questo naturale, religione divina, no, finito. Lui è maestro della sua esistenza e lui vuole essere maestro di lui stesso. Ecco l'uomo moderno. E allora hanno detto adesso alcuni sacerdoti che hanno un spirito moderno, un spirito di modernismo, anche nel concilio, facciamo un compromesso con questo uomo moderno. Andiamo a questo uomo moderno, ma prendendo i suoi desideri. E così il sacerdote disse, adesso io se voglio convertire questi uomini non posso più mi presentare come uomo di Gesù Cristo, come Gesù Cristo stesso. No, è impossibile, perché lui rifiuta Gesù Cristo. Ma allora, come convertirlo? E allora i sacerdoti hanno alcuni si sono sposati, altri non hanno più la talare, gli altri non si presentano più come sacerdoti, fanno come la gente civile, il gente del mondo. Non sono più sacerdoti. Allora come convertire quella gente? Se non c'è più Gesù Cristo, già Gesù Cristo non è più nella società civile, non è più nelle molte scuole, in università, non c'è più Gesù Cristo. E allora se anche il sacerdote
non si presenta come Gesù Cristo, dove troveremmo Gesù Cristo? È impossibile questa attitudine. Questa attitudine è una tradizione. Noi, sacerdoti, siamo veramente Gesù Cristo in terra, noi dobbiamo presentarci al popolo di tutti i secoli come Gesù Cristo e dare Gesù Cristo alle anime. Questo è il nostro ufficio. Non possiamo ascoltare la nostra identità. Dobbiamo rimanere come Gesù Cristo lo vuole. E preghiamo durante questa cerimonia, questa messa, perché questi nuovi sacerdoti e tutti i nostri sacerdoti della fraternità, anche che molti sacerdoti mantengono la loro identità e fanno così un vero apostolato, come l'hanno fatto sempre tutti i santi sacerdoti. E questo è la risposta al desiderio di molte anime. Le anime, molte anime soffrono di non vedere più nelle città sacerdoti religiose. E quando vedono un sacerdote vestito come sacerdote, infine c'è ancora un sacerdote, c'è ancora un religioso, c'è ancora una religiosa. Noi dobbiamo mantenere questa identità e noi preghiamo perché questi nostri sacerdoti siano sempre veri, buoni e santi sacerdoti. E domandiamo questa grazia a Nostra Signora, la nostra Madre di Dio, nostra Madre. Domandiamo che dà molte grazie a questi nuovi sacerdoti per essere veri sacerdoti come il suo figlio e il vero eterno sacerdote. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.